On va aller dans un mot de prière. Père éternel, merci pour ta parole. Père, on veut se placer sous le ministère de ta parole ce matin parce que tu es merveilleux. Parce que tu es grand, tu es majestueux, Seigneur. Et ce matin, comme on va le voir dans ce passage, lorsque le peuple d'Israël a vu ta gloire, après avoir murmuré déjà, Seigneur, ils ont vu ta gloire, ta majesté, ta grâce, ta fidélité, ta puissance, Seigneur. Le peuple d'Israël a éclaté en louanges. S'est mis à chanter un cantique pour la gloire de ton nom, émerveillé par ta beauté, par ta grâce, ta fidélité, ta puissance, Seigneur. Ce matin, Père, je te prie, Seigneur, viens te révéler à nous. Viens nous révéler ta grandeur, combien tu es incomparable, afin de faire de nous un peuple qui te loue, un peuple qui chante des chants de louange, Seigneur, avec un cœur débordant de reconnaissance, émerveillé par ta personne. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre d'Exode, chapitre 14, versets 1 à 8, par la suite 10 à 13, par la suite 21 à 28, et encore le chapitre 14, verset 31, et chapitre 15, verset 1. Tout ça se passe dans l'édition seconde. Donc, je vais débuter par Exode, chapitre 14, versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Phi-Hahiroth, entre Mijol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. » Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Exode, chapitre 14, versets 10 à 13. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Exode, chapitre 14, versets 21 à 28. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent auprès d'eux, au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens, il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et il rendit la marche difficile. Les Égyptiens alors se dirent, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Exode 14, verset 31 et chapitre 15, verset 1. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. »
Merci Luc. C'est un long passage ce matin. Imaginez, mais qu'on couvre 10 chapitres dans un matin. C'est une joke. Pourquoi on chante? J'ai été surpris par le passage. Je ne l'avais pas anticipé vraiment parler de louange avec vous ce matin. Puis, je prêche la parole de Dieu, donc quand j'arrive dans un texte, je dois prêcher le texte, je suis sur le texte. Et ce matin, on ne va pas développer toute la partie louange, on va davantage le chanter. Mais c'est ça le contexte. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens chantent? Puis, je ne pense pas que c'est une question qu'on se serait posée si on avait vécu il y a même juste 20 ans environ. En Amérique du Nord, je pense que les gens chantaient. Mais aujourd'hui, on écoute de la musique. On écoute des tunes. On est abonné à des services de musique en continu. On a des appareils mobiles. Puis, on écoute de la musique en continu. Je pense qu'on écoute beaucoup plus de la musique puis des chansons que de chanter. Sondage ce matin. Qui ici, quand vous écoutez de la musique, vous chantez aussi? Dans l'auto ou n'importe quoi? C'est à peu près 20%, 15%? 15%. Là, j'ai une vraie question. Là. Vraie, vraie question. Qui chante dans sa douche? Ça a l'air que je chante pas toujours juste en plus. C'est ça, quand t'es en avant, hein? Elle a dit que je chantais faux, pas juste dans ma douche. Merci, Annie. Pourquoi les chrétiens chantent? Puis c'est une question qui est ici, d'accord? C'est une question pour l'Amérique du Nord. Je pense que si on allait en Amérique du Sud, déjà, ce serait différent. Puis si on allait en Afrique, ce serait différent. Puis il y a certainement d'autres continents ou d'autres pays où ça chante très, très peu aussi. Mais ici, en Amérique du Nord, on ne chante pas comme on chantait avant. Mais les chrétiens chantent. Puis quand tu arrives dans une église, ça peut être étrange. J'ai un ami à moi qui venait ici, puis il m'a répété à quelques reprises. Il dit, quand je viens, j'écoute le message, c'est bon, j'aime ça. Les chants, je ne suis pas capable. Puis il me le disait, il dit, je sors, il y en a que tu ne me verras pas là, je ne suis pas capable. Il ne comprenait pas c'est quoi qu'on faisait là comme à chanter par en avant. C'est quoi cette affaire-là? Puis dans ce passage-là, le peuple d'Israël assiste à la gloire de Dieu. Puis d'une manière qui n'était probablement pas tout à fait spontanée, parce que le chant qui va être chanté après est structuré, il est écrit, mais c'est comme si le peuple, pour autant que j'en comprends, s'est arrêté après. Et il a pris le temps de dire, on doit célébrer Dieu. Les chrétiens chantent depuis des siècles. Parce que c'est une des manières les plus naturelles de dire à Dieu des paroles de louange. Pas simplement parler de Dieu, puis m'asseoir avec un chrétien, puis dire « Hey, Dieu est incroyable, il est génial, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie cette semaine? » Puis là, on partage. Puis on peut le faire ensemble dans la prière. Mais on ne va pas prier ensemble la même prière à 300 personnes le dimanche matin, à moins qu'on soit en train de la chanter ensemble. Et donc, lorsqu'on se rassemble le dimanche matin pour louer Dieu, on se rassemble pour recevoir sa parole pour qu'il nous parle. Mais on se rassemble pour dire à Dieu qu'il est absolument merveilleux. Ce qu'il fait dans nos vies est extraordinaire. Et les paroles de nos chants sont choisies pour élever sa gloire. Et à ce moment-là, le style musical devient assez assez peu important, bien honnêtement. Je pourrais louer Dieu sur du reggae, sur du classique, sur des chants grégoriens. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plus une expression culturelle. Et je trouverais pas vraiment un endroit où le style musical va m'importer. Parce que la louange qui sort de mes lèvres, c'est de l'abondance de mon cœur qu'elle est en train de parler et combien j'ai été émerveillé par Dieu. Et lorsque vous venez le dimanche matin ici, vous venez pour exprimer à Dieu comment vous l'aimez. Parce que les chrétiens chantent depuis toujours pour dire à Dieu combien ils le trouvent incomparable par sa fidélité, par sa grâce, par sa puissance. Depuis des siècles, on fait ça. Et lorsque vous venez chanter des louanges, c'est vrai que ça fait du bien de chanter ensemble. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'énergisant de dire on est en train d'élever nos voix ensemble à Dieu. Mais l'auditoire pour lequel on chante, ce n'est pas les gens autour de moi. C'est pour l'auditoire d'une seule personne. An audience of one. J'aime bien ça, cette expression-là. C'est pour Dieu seul qu'on est en train de le faire. Parce qu'on est en train de dire à Dieu combien il est merveilleux. Et c'est un peu pour ça que dans l'Église ici, on fait le choix généralement de chanter juste un chant au début, d'aller dans la parole de Dieu, puis de garder la louange pour la suite. C'est très volontaire si on fait ça comme ça. C'est parce qu'on veut laisser Dieu nous parler, puis ensuite de ça, on veut répondre avec nos cœurs. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin, un peuple qui avait le cœur débordant. Dans Exode 15, 11 à 13, voici ce qu'on lit. « Qui est comme toi? » Et c'est leur cantique, c'est leur chant. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges. » Par la demeure de ta sainteté. Ce matin, on va voir ensemble que tous les chrétiens chantent des louanges à Dieu parce qu'il est incomparable par sa fidélité, sa grâce et sa puissance. Et commençons par regarder ce que Dieu fait, qui il est pour Israël, qu'est-ce qui fait que ce peuple-là va spontanément éclater en louanges et vouloir célébrer Dieu. Dieu leur montre sa fidélité. Alors, on fait juste se replacer rapidement dans le contexte de notre histoire pour voir où est-ce qu'on est rendu. Dieu a opéré un miracle dans le sens qu'il a préservé tous les premiers-nés de la nation d'Israël, tous ceux qui avaient fait le pas de foi de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Dieu les a préservés. Pharaon, tout son peuple, ils ont flippé complètement. Ils ont dit « OK, partez d'ici, bénissez-moi, puis partez. » Et donc, le peuple s'est levé comme un seul homme. 600 000 hommes, nous dit Moïse, avec les femmes et les enfants. C'est une nation qui décolle, d'accord? En une nuit, ils lèvent le camp, ils se préparent, ils partent. Les Égyptiens leur font des cadeaux. Partez, on ne veut plus vous voir la face. Et regardez bien ce que Dieu dit au début du passage. Allez avec moi dans Exode 13, s'il vous plaît. Je veux juste vous remettre en contexte au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller, donc Exode 13, 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Dieu leur fait faire un détour. Car Dieu dit, le peuple pourrait changer d'idée, se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le peuple d'Israël ne sait pas encore c'est quoi marcher par la foi. Il n'a pas encore appris cette leçon-là. Et Dieu va devoir les exercer dans la foi. Il va devoir les faire grandir dans la foi. Et donc, ce que Dieu fait sciemment, volontairement, il les conduit pour qu'ils soient coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Parce que Pharaon se réveille après, on le connaît, le monsieur. Hein? Il dit oui, mais tout de suite après, il change d'idée. Là, il réalise que son manpower, son cheap labor vient de partir. Ses immigrants viennent de s'en aller. Il dit non, ça ne marchera pas demain. Je suis désolé. Hein? Malheureusement, c'est ça que ça a l'air des fois. Ça ne marchera pas comme ça. Mais là, il part après eux avec son armée. Et le peuple d'Israël se trouve coincé entre la mer Rouge et entre l'armée de Pharaon qui s'en vient. Il veut les coincer. Il veut les exterminer. Et le peuple commence à murmurer. Mais Dieu les conduit là pour les enseigner. Le peuple doit apprendre la fidélité de Dieu. Et le peuple commence à murmurer contre Moïse et contre Dieu. On va voir, c'est un peuple qui va continuer à murmurer. Ils ont besoin d'apprendre à marcher par la foi. Je ne sais pas si c'est ton style à toi de vie chrétienne. Tu es quelqu'un qui murmure constamment. Cette semaine, est-ce que c'était les chants de louange de la fin de notre passage ou c'était le murmure qui t'animait? Pourtant, ils viennent de voir la gloire de Dieu. Mais ils ont besoin d'apprendre à s'appuyer sur la sagesse de Dieu, sur ses promesses. Et c'est ça qu'il exprime au verset 17. Dieu sait qu'Israël est un peuple immature spirituellement. Voici comment on pourrait le résumer, d'accord? Parce que Dieu sait de quoi on est fait. Lorsqu'on vient à la foi, en gros, on sait de où on sort. Tu te convertis, tu deviens chrétien, ta vie n'allait pas bien, ton mariage n'allait pas bien, tu réalisais que tu n'arrivais pas à construire ta vie. Moi, c'est ça ma conversion. J'ai dit, Seigneur, j'y arrive pas, tout ce que je construis, ça se détruit, fait que c'est toi qui prends le volant. Je sais d'où je sors, okay? Je sais ce que je ne veux plus être. Laissez-moi donner une illustration. Quand tu te maries, tu sais ce que tu quittes, le célibat, d'accord? Ça va, je quitte ça. Est-ce que tu sais vraiment dans quoi tu t'embarques? Moi, je pense que non. Alors, tu connais la théorie, si tu as été bien accompagné, tu connais la théorie. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Je sais d'où Dieu m'a sorti, mais je ne sais pas comment ça va se passer de l'autre bord. Et Israël a besoin d'apprendre à marcher par la foi, parce qu'une grande partie de notre vie chrétienne, une grande partie de notre marche, c'est de regarder en arrière, de voir d'où je suis parti, d'où Dieu m'a sorti, puis par la foi m'appuyer sur ses promesses pour l'avenir. C'est vraiment intéressant, le passage se poursuit, puis on a juste une illustration très, très simple de la fidélité de Dieu, un exemple concret. Dieu avait dit dans Genèse 50, versets 24 à 26, d'accord? Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, alors qu'ils sont en Égypte. Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Dans le passage qui suit, le verset 18, là, je suis dans Exode 13, 18. « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph. » Et on a juste une illustration de la fidélité de Dieu. Moïse avait dit, « Dieu va être fidèle à ses promesses, inquiétez-vous pas, vous allez souffrir. Moi, je meurs, puis ça va changer, la donne va changer. Politiquement, on ne sera plus dans les bonnes grâces de Pharaon. Ça va aller mal, puis ça a été mal pendant longtemps. Mais Dieu a promis. » Et ici, on a une autre preuve de la fidélité de Dieu, parce que Moïse prend les eaux de Joseph pour les apporter, pour les enterrer dans la terre promise. Et donc, Dieu est fidèle à ses promesses. Et une des leçons qu'il veut nous enseigner, on trouve ça dans Romains 8, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Israël a décidé d'aimer Dieu et de suivre Dieu. Ils l'ont suivi jusqu'à mettre le sang sur les linteaux de la porte, à lever le camp puis à partir. Ils ont besoin d'apprendre maintenant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est une des leçons les plus importantes de la vie chrétienne. Parce que si on est sauvé par la foi, ils ont placé le sang de cet agneau-là, par la foi, ils ont cru dans la parole de Dieu. Si on est sauvé par la foi, on avance par la foi, on marche par la foi. Parce qu'il y a des moments où Dieu va nous placer devant des épreuves, devant des tests. Et peut-être que c'est ça que tu es en train de traverser. Tu priais pour un emploi, Dieu t'a donné un emploi, puis tout semble mal aller. Tu étais comme dans les bonnes grâces, ça allait bien, tu disais, « Enfin, Seigneur! » Tu priais pour pouvoir te marier, puis tu rentres, puis c'est difficile, c'est lourd. Tu voulais avoir une famille, tu voulais les instruire dans la foi, puis tu es là, tu es devant la mer Rouge, puis tu as l'armée de Pharaon qui s'en vient. Et Dieu est en train de former ta foi. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On le commence par la foi et on le tient tout le long par la foi, appuyé sur les promesses et sur la fidélité de Dieu. Et les épreuves viennent pour forger, former notre foi. Alors, je ne sais pas si actuellement tu es en train de vivre quelque chose comme ça. Si Dieu est en train de te passer dans le tordeur, tu dis, Seigneur, la bénédiction était grande, les promesses étaient merveilleuses, mais là, ça craint cette affaire-là. pas cool. Toutes les épreuves, les journées mauvaises, les mauvaises nouvelles, les problèmes de santé, n'importe quoi, les tensions, les difficultés, les moments d'insécurité financière, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il a appelé selon son dessein. Israël sait qu'il est appelé. Il doit apprendre maintenant à marcher par la foi en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Il doit apprendre à se reposer sur la présence de Dieu. C'est quand même assez extraordinaire parce que Dieu est présent. Dieu est présent à travers la nuée. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple. On peut être nostalgique de cette époque-là où c'était facile de suivre Dieu. T'sais. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, tu veux que j'aille par là ou tu veux que j'aille par là? Il ne peut pas avoir une colonne, t'sais, un feu qui apparaît. Est-ce que je prends ce job-là, je prends celle-là, est-ce que je m'en vais là? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je cherche ta direction. Est-ce que je fais la bonne chose? Je veux ta direction. Et Israël devait apprendre à se reposer dans la présence de Dieu. C'est ça la réponse que Dieu a donnée à Moïse. Moïse dit, je ne suis pas assez grand pour faire ça. Je vais être avec toi, Moïse. Seigneur, je ne suis pas bon pour faire ça. Je vais être avec toi, Moïse. Et là, Dieu est avec eux. Alors même que l'armée de Pharaon s'en vient pour les détruire, il voit la nuée. La nuée va se déplacer puis va se placer entre l'armée et eux. Ils voient. Et ils doivent apprendre à se reposer dans la présence de Dieu. On lit dans le livre d'Ésaïe, plusieurs théologiens comprennent que l'Esprit de Dieu est présent dans cette nuée-là. Plusieurs théologiens croient cela, entre autres à cause du prophète Ésaïe qui dit dans le chapitre 63, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé ton Esprit Saint. » Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau, où celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour faire un nom à l'Éternel, qui les dirigea à travers les flots, comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche. Comme la bête qui descend de la ville, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Plusieurs théologiens croient que dans cette nuée, la flamme de feu est souvent une image de l'Esprit dans les Écritures et croient que c'est l'Esprit Saint qui est présent là. Alors lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament puis qu'on voit ces moments-là où on dit les miracles étaient tellement grands, c'était comme, il me semble que ce serait plus simple de croire ça. En même temps, je dois saisir l'époque de grâce où je vis, l'œuvre que Christ a accomplie. Parce que si l'Esprit de Dieu était avec le peuple, même était sur le peuple par moment, pour conduire le peuple, s'il était visiblement présent, où est-ce qu'est l'Esprit de Dieu maintenant? Les Saintes Écritures nous disent qu'il est en nous. Jésus dit dans Jean 14, versets 16 et 17, c'est Jésus qui prie avant sa crucifixion. Sa crucifixion et sa résurrection vont rendre vraiment notre salut possible. Et il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. » Déjà, l'Esprit était à l'œuvre auprès des disciples, et il sera en vous. Parce qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, devient possible que chacun d'entre nous, tous les croyants, nous devenions le temple du Saint-Esprit. Sans prétention, au contraire, c'est confondant. Mais je dois apprendre à marcher par la foi, en sachant que l'Esprit de Dieu m'habite. Je lis les Écritures pour que son Esprit me parle. Je lis les Écritures pour que son Esprit m'anime, qu'il me conduise. Lorsque je suis devant des dilemmes, puis que je voudrais, avec nostalgie, retourner à cette époque-là, puis dire, « Ah, oh, j'aurais aimé ça avoir une colonne de nuée. » Oui, mais l'Esprit, tu aurais voulu l'avoir dans le cœur pour qu'il t'apprenne à marcher par la foi sans murmurer. Parce qu'Israël va se révéler être un peuple qui murmure constamment. Mais toi et moi, si on a placé notre foi en Jésus-Christ pour apprendre à ne plus murmurer, on a un pédagogue qui habite en nous, l'Esprit de Dieu. Je sais que c'est flyé si tu n'es pas chrétien. Tu dis, t'es malade, j'aimerais bien mieux voir ta flamme, je pourrais croire. Quand Dieu se révélera à toi et que tu expérimenteras la nouvelle naissance, tu vas voir. Tu vas dire, waouh, wow, j'aime la grâce, j'aime l'Évangile, j'aime mon Dieu, j'aime le louer, j'aime le célébrer, j'aime me confier en lui. Quand je m'éloigne de lui, je sais que mon malheur est là et mon bonheur est auprès de lui. Je sais que la grâce se trouve quand je laisse l'Esprit conduire mes pas au lieu de résister à sa direction. Et j'ai besoin d'apprendre à me reposer dans la présence de Dieu à travers l'épreuve pour marcher par la foi. L'Esprit les guider à travers le désert. Est-ce que vous comprenez pourquoi à la fin de cette expérience-là, le peuple va éclater en louange? Ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte, puis là, ils sont en train de se sauver, et l'Esprit de Dieu est présent là, il les dirige, il va ouvrir les eaux devant eux. Est-ce que vous comprenez pourquoi le peuple, lorsqu'il va voir tout ça, Dieu les conduit là entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, afin qu'ils voient éclater sa gloire, pour qu'ils puissent grandir dans leur foi, pour qu'ils puissent éclater en louange? La traversée de la mer Rouge est une image super importante pour les chrétiens. C'est un miracle. C'est dur à croire. C'est dur de croire en Dieu. Plus tu lis les Écritures, plus tu dis Dieu est Dieu. Et Dieu est vraiment ce qui explique ce monde et ce qui explique ce monde de manière logique et sensée à ma foi. Et j'apprends à croire que Dieu est tout-puissant pour ressusciter Christ d'entre les morts, pour m'accorder la vie éternelle et pour séparer les eaux. Mais ce miracle-là qui s'est passé historiquement est une image super importante pour nous. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, parce qu'ils ont suivi Moïse à travers ça, dans la nuée, dans la mer, et qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Voyez-vous, les Israélites, lorsqu'ils ont fait le pas de foi, de s'engager pour traverser la mer qui s'est ouverte, de suivre la direction de Moïse, marchait par la foi. Lorsque par la foi, ils ont sacrifié l'agneau pascal, ils ont mis le sang sur les linteaux, c'est un acte de foi qu'ils ont fait. Sans le connaître, ils plaçaient leur foi en Christ. Parce que l'agneau pascal, c'est juste un animal. Et ce n'est pas un homme parfait, sans défaut, sans tâche, comme Christ qui allait venir mourir. Mais par la foi, sans le connaître, il s'appuyait sur Christ lui-même. C'est Christ qu'il suivait. C'est l'Esprit de Christ qu'il suivait à travers cette mer-là. Alors voyez-vous, ce passage-là à travers la mer Rouge du peuple d'Israël est un symbole qui représente notre baptême à nous en Jésus-Christ. Paul dit dans Romains 6, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Lorsque le peuple d'Israël a passé par les eaux, ils ont été baptisés en suivant Moïse. Par la foi, ils sont passés par les eaux. Et lorsqu'une personne décide de placer sa foi en Jésus-Christ, décide de faire l'acte de foi conscient, de dire « c'est toi mon sauveur » et qu'il se fait baptiser, il se fait baptiser en Jésus-Christ. C'est important cette image-là parce qu'on comprend mieux qu'est-ce que c'est la grâce. On comprend mieux l'Évangile à travers ce moment historique-là extraordinaire qui se passe. On saisit la grâce. Lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté, c'est simplement par grâce qu'ils l'ont fait, sans aucun mérite. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était croire en Dieu et suivre Moïse. Il y a quelque chose d'important dans ça. C'est Tim Keller qui m'a aidé à réaliser ça, mais c'est vraiment important. Des fois, les chrétiens, une des luttes qu'on a, c'est qu'on dit, OK, on est sauvé par la foi, mais quelle foi? Je ne sais pas si j'ai assez de foi pour être sauvé. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les gens qui étaient en train de murmurer d'un côté de la mer Rouge étaient tous en train de chanter des cantiques de louange pendant qu'ils traversaient, puis qu'ils voyaient l'armée qui s'en venait. Moi, je pense qu'il y en a qui étaient exaltés et qui disaient « Wow! » Il y en a qui braillaient. Il y en a qui se disaient « Mais ça va tomber sur nous, malheur à nous. » Ils étaient déjà en train de dire avant « C'est quoi la joke? Il y avait des sépulcres en Égypte, on aurait pu rester là. On va mourir dans le désert sans même avoir un tombeau. » La qualité de leur foi n'est pas déterminante dans leur salut. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est croire, à faire un pas en avant, puis à s'avancer, puis à suivre. C'est tout ce qu'ils ont à faire. La qualité de leur foi n'est pas déterminante. Si la qualité de leur foi est déterminante, ça revient aux œuvres. Il y a juste ceux qui croient assez bien qui vont être sauvés. Mais ce n'est pas toi qui te sauves, ce n'est pas ta foi qui te sauve. C'est par le moyen de la foi que Dieu te sauve. Ce n'est pas toi qui te sauve. Tu as juste à placer ta foi en Christ, puis à mettre un pas devant l'autre, puis à le suivre, puis à marcher à sa suite. Ce n'est pas la qualité de ta foi qui te sauve. Et Dieu vient les sauver de l'esclavage. Israël a été sauvé de l'esclavage, mais ils ont encore tellement de choses à apprendre. On lit dans Romains 6, que je citais tout à l'heure, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en Jésus-Christ que nous avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Israël doit apprendre à marcher en nouveauté de vie, à marcher par la foi, et Dieu leur fait passer des tests pour fortifier leur foi. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est croire et marcher. Mais ils doivent apprendre à marcher par la foi. On lit dans Actes 7, « Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » On va le voir dans la suite de l'histoire. Israël va douter. Israël ne veut pas marcher par la foi. Israël veut retourner en Égypte. Mais le travail que Dieu doit faire, c'est qu'il doit leur apprendre à être un peuple qui marche par la foi. Et cela s'apprend. Ils doivent accepter qu'ils sont sauvés uniquement par grâce, mettre un pied devant l'autre et avancer par la foi. Il n'y a rien d'autre à faire que regarder à la grâce. Et ça, c'est tout un apprentissage. Ils ont été sauvés en Égypte. Ils sont sauvés encore, puis quand Dieu va continuer, il va leur enseigner la foi. Dans nos termes à nous, on va dire qu'on a été sauvés, qu'on est sauvés à tous les jours encore. Puis Dieu est en train de nous apprendre à marcher par la foi en nous appuyant uniquement sur la grâce de Dieu. Même pas sur la qualité de ma foi, c'est juste un pas devant l'autre. Et cette journée-là, après avoir été sauvés de manière extraordinaire en Égypte, Israël assiste à la gloire de Dieu. Et ils savent qu'ils n'ont aucun mérite pour être sauvés. Ils doivent s'appuyer entièrement sur la grâce de Dieu. Et lorsqu'ils mettent le pied sur l'autre rive, sur la berge, les eaux se referment sur le peuple d'Égypte. Parce que Dieu veut révéler qui il est. Dieu était patient avec Pharaon. Dieu était gracieux avec Pharaon. Une plaie, un autre avertissement, un autre avertissement. Mais Pharaon ne voulait rien savoir de Dieu. Dieu a dit, je vais endurcir son cœur, puis il va faire éclater ma gloire, il va démontrer ma gloire. Exode 14, 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, Israël. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On lit un passage troublant dans Romains 9 qui nous parle de Pharaon. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ce jour-là, lorsque les eaux se sont refermées, Dieu a été glorifié. Les eaux se sont refermées sur une multitude d'hommes qui, dans un cri de terreur, ont reconnu que Dieu était Dieu. Dieu a répondu à Pharaon, à sa question, « Qui est l'Éternel pour que je le serve? » Mais Dieu l'a fait à travers un jugement. En définitive, Dieu va toujours manifester sa gloire. Il va le faire à travers sa grâce. Si je fais un pas de foi, qu'elle soit forte, qu'elle soit tout petite. Si je fais un pas de foi, puis je crois dans l'œuvre de Christ à la croix pour mes péchés, il va manifester sa gloire à travers la grâce. Tous ceux d'Israël qui sont sur la berge voient la grâce de Dieu et voient la gloire de Dieu. Et Dieu va manifester sa gloire à travers son jugement. Dieu va manifester sa gloire à travers son jugement. Et la mort de Pharaon, qui nous est rapportée, qui est lue depuis maintenant des milliers d'années, est un avertissement pour nous. Dieu va se glorifier à travers ta vie. C'est une absolue certitude. Ça, tu n'as même pas le choix. Dieu va se glorifier à travers ta vie, c'est certain. Soit qu'il va le faire en te couvrant de sa grâce, puis tu vas être là pour célébrer ses louanges avec Israël qui éclate en louanges, ou soit qu'il va le faire en faisant tomber son jugement sur toi. J'ai cette ferme conviction que Dieu est vivant, que Dieu existe. L'être humain n'est pas un accident, on n'est pas apparu comme ça. Il y a quelqu'un qui a conçu. La vie humaine est sacrée et Dieu va demander à chaque être humain de rendre compte pour cette vie sacrée qui lui a été donnée. Et Dieu va faire éclater sa gloire à travers la grâce ou à travers le jugement. Et c'est à chacun d'entre nous de décider comment la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. Comme Pharaon, à un certain moment donné, Dieu a endurci son cœur puis l'a livré à lui-même, l'a livré à sa folie. Aujourd'hui est le jour du salut si tu décides d'embrasser la grâce de Dieu. Tu vas commencer cette marche-là où Dieu va te placer dans des situations pas possibles, des situations difficiles, parce qu'il va te faire grandir dans la foi. Il va te coincer entre la mer Rouge puis l'armée de Pharaon. Il va y avoir des épreuves dans ta vie. Puis tu vas dire, mais c'est quoi cette vie de foi-là? C'est ça. C'est la foi. Mais tu vas voir. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas réaliser que tu as été porté par la grâce de Dieu. Ton cœur va se remplir de louanges parce que tu vas réaliser que ce n'est pas par tes mérites, par ta force à toi que tu marches dans la vie chrétienne, mais c'est seulement par sa grâce. Tu vas regarder en arrière, tu vas dire, Seigneur, j'ai douté de toi, j'ai murmuré, Seigneur, mais aujourd'hui, je veux te louer, je veux te célébrer. Dans Exode 14, 28, on lit ceci. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Verset 30, « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Pourquoi est-ce que les chrétiens chantent des cantiques de louange depuis des siècles? Parce qu'on a connu la grâce de Dieu. On a réalisé que par nous-mêmes, on ne pourrait pas glorifier Dieu. Les chrétiens ont réalisé que Dieu voulait nous sauver de l'esclavage du péché. Et que Dieu est Dieu, qui est souverain et qui va se glorifier. Que ce soit à travers sa grâce dans nos vies, à travers le jugement sur nos vies. Dieu est Dieu, il est incomparable. Et les chrétiens louent Dieu, chantent des cantiques de louange depuis des siècles. Parce qu'ils apprennent à marcher par la foi. Cette semaine, vous avez eu des épreuves. Cette semaine, vous avez été tenté dans votre foi, vous avez été testé dans votre foi. Et le Seigneur est en train de vous apprendre à marcher par sa grâce, pour que vous veniez ici dimanche après dimanche, chanter ses louanges et sa gloire. On va prier ensemble avant de chanter les louanges de Dieu. Père éternel, saisis-nous par ton esprit, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, ces eaux qu'on a traversées lorsqu'on a placé la foi en toi. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, là où nous étions lorsque nous étions perdus sans toi. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir ta grâce et tes bontés. Seigneur, nous avons connu que tu es incomparable, que tu es tout-puissant, que tu es fidèle, Seigneur. À travers les années, tu m'as appris à marcher par la foi. Tu m'as appris à ne pas perdre le sourire pendant les épreuves. Tu m'as appris à élever ma voix dimanche après dimanche pour chanter tes louanges, Seigneur. Parce que je sais que tu es fidèle. Parce que je sais que tu es gracieux. Parce que je sais que tu es tout-puissant, Seigneur. Et ce matin, on veut élever nos voix. Dimanche après dimanche, on veut élever nos voix, Seigneur. Apprends-nous, comme Église, à célébrer ta gloire, à venir ici pour nourrir notre âme de ses louanges et glorifier ton nom, Seigneur, par ses chants. Dans Jésus qu'on prie, Père. Amen.